On va tourner ensemble dans le livre des Juges au chapitre 6. Juges 6. Et vous allez pouvoir suivre aussi sur l'écran en avant. Je tiens à vous mentionner, ce matin, on va avoir une lecture un peu plus longue. On va lire la quasi-totalité des chapitres 6, 7 et 8. D'accord? On a un petit 10 minutes de lecture devant nous. Alors, préparez-vous pour être bien attentifs. Si c'est fermer les yeux qui est la bonne méthode pour vous, c'est celle-là. On va sauter quelques sections, vous allez voir, simplement pour ne pas couvrir tout le passage. Dans notre série sur les juges, pour vous remettre en contexte, on a vu le chapitre 1 et le chapitre 2 qui servaient toutes deux d'introduction. Alors, j'avais prêché sur le chapitre 1, puis Stéphane Tessier, dimanche dernier, a prêché sur le chapitre 2. Il a fait un bon travail. J'étais vraiment content. J'ai été béni moi-même d'écouter son message. Et donc, c'est comme une deuxième introduction où on est introduit, il nous est présenté les cycles, le cycle de péché, d'idolâtrie, de repentance, de délivrance qu'on voit à plusieurs reprises dans le livre des juges. Dans le cadre de la série, on ne va pas voir chacun des juges, d'accord? Et donc, on a déjà couvert en réalité, disons que dans le passage, le livre a déjà couvert quelques-uns des juges, Othniel, Éhud, Déborah et Barak, et puis on arrive à Gédéon. Alors ce matin, on se tourne vers Gédéon. Soyez bien attentifs au récit, puisqu'on va couvrir ces trois chapitres-là ce matin. On va écouter ensemble la parole de Dieu.
Le passage biblique de ce matin est tiré du livre de Juges, au chapitre 6, 7 et 8, édition Louis II. Juges au chapitre 6, 7 et 8. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. La main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait semé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient, et ils marchaient contre lui. Ils campaient en face de lui, détruisaient les productions du pays jusque vers Gaza et ne laissaient en Israël ni vivres, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes, ils arrivaient comme une multitude de sauterelles, ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux, et ils venaient dans le pays pour le ravager. Israël fut très malheureux à cause de Madian, et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël. Il leur dit,
« Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vous ai fait monter d'Égypte et je vous ai fait sortir de la maison de servitude. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit, « Je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne craindrez point les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. » Mais vous n'avez point écouté ma voix.
Puis vint l'ange de l'Éternel, et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas, de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit,
« L'Éternel est avec toi, vaillant héros. »
Gédéon lui dit, « Mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent « L'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? » Maintenant, l'Éternel nous abandonne et nous livre entre les mains de Madian.
L'Éternel se tourna vers lui et dit « Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? »
Gédéon lui dit « Mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé et je suis le plus petit dans la maison de mon père. » L'Éternel lui dit,
« Mais je serai avec toi, et tu battras Madian comme un seul homme. »
6:25. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon,
« Prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abats le pieu sacré qui est dessus. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel à l'Éternel ton Dieu. » Tu prendras le second taureau et tu offriras en holocauste avec le bois de l'idole que tu auras abattu.
Gédéon prit 10 hommes parmi ses serviteurs et fit ce que l'Éternel avait dit. Mais comme il craignait la maison de son père et les gens de la ville, il l'exécuta de nuit et non de jour. Lorsque les gens de la ville se furent levés de bon matin, voici l'autel de Baal était renversé. Le pieu sacré placé dessus était abattu et le second taureau était offert en holocauste sur l'autel qui avait été bâti. Ils se dirent l'un à l'autre, « Qui a fait cela? » Et ils s'informèrent et firent des recherches. On leur dit, « C'est Gédéon, fils de Joas, qui a fait cela. » Alors les gens de la ville dirent à Joas, « Fais sortir ton fils, et qu'il meure, car il a renversé l'autel de Baal et abattu le pieu sacré qui était dessus. » Joas répondit à tous ceux qui se présentèrent à lui, « Est-ce à vous de prendre parti pour Baal? Est-ce à vous de venir à son secours? Quiconque prendra parti pour Baal mourra avant que le matin vienne. Si Baal est un dieu, qu'il plaide lui-même sa cause, puisqu'on a renversé son autel. » Et en ce jour, l'on donna à Gédéon le nom de Jérubal, en disant que Baal plaide contre lui, puisqu'il a renversé son autel. Tout Madian, Amalek et les fils de l'Orient se rassemblèrent. Ils passèrent le Jourdain et campèrent dans la vallée de Jizréel. Gédéon fut revêtu de l'Esprit de l'Éternel. Il sonna de la trompette et Abiézer fut convoqué pour marcher à sa suite. Il envoya des messagers dans tout Manassé, qui fut aussi convoqué pour marcher à sa suite. Il envoya des messagers dans Aser, dans Zabulon et dans Nephtali, qui montèrent à leur rencontre. Gédéon dit à Dieu,
« Si tu veux délivrer Israël par ma main, comme tu l'as dit, « voici, je vais mettre une toison de laine dans l'air. Si la toison seule se couvre de rosée et que tout le terrain reste sec, je connaîtrai que tu délivreras Israël par ma main, comme tu l'as dit. »
Et il arriva ainsi. Le jour suivant, il se lava de bon matin, pressa la toison et en fit sortir la rosée, qui donna de l'eau plein une coupe. Gédéon dit à Dieu,
« Que ta colère ne s'enflamme point contre moi et je ne parlerai plus que cette fois. » Je voudrais seulement faire encore une épreuve avec la toison. Que la toison seule reste sèche et que tout le terrain se couvre de rosée.
Et Dieu fit ainsi cette nuit-là. La toison seule resta sèche et tout le terrain se couvrit de rosée. Jérubal, qui est Gédéon, et tout le peuple qui était avec lui se levèrent de bon matin et campèrent près de la source de Harod. Le camp de Madian était au nord de Gédéon, vers la colline de Morée dans la vallée. L'Éternel dit à Gédéon,
« Le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je livre Madian entre ses mains. Il pourrait en tirer gloire contre moi et dire, « C'est ma main qui m'a délivré. » Publie donc ceci aux oreilles du peuple. Que celui qui est craintif et qui a peur s'en retourne et s'éloigne de la montagne de Galaad. »
22 000 hommes parmi le peuple s'en retournèrent et il en resta 10 000. L'Éternel dit à Gédéon,
« Le peuple est encore trop nombreux. » Fais-les descendre vers l'eau, et là, je t'en ferai le triage. Celui dont je te dirai que celui-ci aille avec toi, ira avec toi. Et celui dont je te dirai que celui-ci n'aille pas avec toi, n'ira pas avec toi. »
Gédéon fit descendre le peuple vers l'eau, et l'Éternel dit à Gédéon,
« Tous ceux qui lapperont l'eau avec la langue comme lappe le chien, tu les sépareras de tous ceux qui se mettront à genoux pour boire. »
Ceux qui lapèrent l'eau en la portant à la bouche avec leurs mains furent au nombre de 300 hommes, et tout le reste du peuple se mit à genoux pour boire. Et l'Éternel dit à Gédéon,
« C'est par les 300 hommes qui ont lapé que je vous sauverai et que je livrerai Madian entre tes mains, que tout le reste du peuple s'en aille chacun chez soi. »
On prit les vivres du peuple et ses trompettes. Puis Gédéon renvoya tous les hommes d'Israël, chacun dans sa tente, et il retint les 300 hommes. Le camp de Madian était au-dessous de lui dans la vallée. L'Éternel dit à Gédéon pendant la nuit,
« Lève-toi, descends au camp, car je l'ai livré entre tes mains. Si tu crains de descendre, descends-y avec Pura, ton serviteur. Tu écouteras ce qu'ils diront, et après cela, tes mains seront fortifiées. Descends donc au camp. »
Il descendit avec Pura, son serviteur, jusqu'aux avant-postes du camp. Madian, Amalek et tous les fils de l'Orient étaient répandus dans la vallée comme une multitude de sauterelles, et leurs chameaux étaient innombrables comme le sable qui est sur le bord de la mer. Gédéon arriva, et voici, un homme racontait à son camarade un songe. Il disait,
« J'ai eu un songe, et voici, un gâteau de pain d'orge roulait dans le camp de Madian. Il est venu heurter jusqu'à la tente, et elle est tombée. Il l'a retournée sans dessus-dessous, et elle a été renversée. »
Son camarade répondit et dit, « Ce n'est pas autre chose que l'épée de Gédéon, fils de Joas, homme d'Israël. Dieu a livré entre ses mains Madian et tout le camp. » Lorsque Gédéon eut entendu le récit du songe et son explication, il se prosterna, revint au camp d'Israël et dit,
« Levez-vous, car l'Éternel a livré en votre main, entre vos mains, le camp de Madian. »
Il divisa en trois quarts les 300 hommes et leur remit à tous des trompettes et des cruches vides, avec des flambeaux dans les cruches. Il leur dit, «
Vous me regarderez et vous ferez comme moi. Dès que j'aborderai le camp, vous ferez ce que je ferai. Et quand je sonnerai de la trompette, moi et tous ceux qui seront avec moi, vous sonnerez aussi de la trompette tout autour du camp et vous direz « Pour l'Éternel et pour Gédéon ».
Gédéon et les 300 et les 100 hommes qui étaient avec lui arrivèrent aux abords du camp au commencement de la veille du milieu, comme on venait de placer les gardes. Ils sonnèrent de la trompette et brisèrent les cruches qu'ils avaient à la main. Les 300 corps sonnèrent de la trompette et brisèrent les cruches. Ils saisirent de la main gauche les flambeaux et de la main droite les trompettes pour sonner. Et ils s'écrièrent « Épée pour l'Éternel et pour Gédéon ». Ils restèrent chacun à sa place autour du camp et tout le camp se mirent à courir, à pousser des cris et à prendre la fuite. Les 300 hommes sonnèrent encore de la trompette et dans tout le camp, l'Éternel leur fit tourner l'épée les uns contre les autres. Le camp s'enfuit jusqu'à Beth-Shitta vers Tsérema, jusqu'au bord d'Abel-Méora, près de Tabat. Les hommes d'Israël se rassemblèrent, ceux de Nephtali, d'Aser et de tout Manassé, et ils poursuivirent Madian. Gédéon envoya des messagers dans toute la montagne d'Éphraïm pour dire « Descendez à la rencontre de Madian et coupez-leur le passage des eaux jusqu'à Beth-Bara et celui du Jourdain. » Tous les hommes d'Éphraïm se rassemblèrent et ils s'emparèrent du passage des eaux jusqu'à Beth-Bara et de celui du Jourdain. Ils saisirent deux chefs de Madian, Horeb et Zeb. Ils tuèrent Horeb au rocher d'Horeb et ils tuèrent Zeb au pressoir de Zeb. Ils poursuivirent Madian et ils apportèrent les têtes d'Horeb et de Zeb à Gédéon de l'autre côté du Jourdain. Les hommes d'Israël dirent à Gédéon, « Domine sur nous, et toi et ton fils et le fils de ton fils, car tu nous as délivrés de la main de Madian. » Gédéon leur dit,
« Je ne dominerai point sur vous, et mes fils ne domineront point sur vous. C'est l'Éternel qui dominera sur vous. »
Gédéon leur dit,
« J'ai une demande à vous faire. Donnez-moi chacun les anneaux que vous avez eus pour butin. »
Les ennemis avaient des anneaux d'or, car ils étaient ismaélites. Ils dirent, « Nous les donnerons volontiers. » Et ils étendirent un manteau sur lequel chacun jeta les anneaux de son butin. Le poids des anneaux d'or que demanda Gédéon fut de 1700 sicles d'or, sans les croissants, les pendants d'oreilles et les vêtements de pourpre que portaient les rois de Madian, et sans les colliers qui étaient au cou de leurs chameaux. Gédéon en fit un éphod et il le plaça dans sa ville, à Ophra, où il devint l'objet des prostitutions de tout Israël. Et il fut un piège pour Gédéon et pour sa famille. Madian fut humilié devant les enfants d'Israël et il ne leva plus la tête. Et le pays fut en repos pendant 40 ans, durant la vie de Gédéon. Jérubbaal, fils de Joas, s'en retourna et demeura dans sa maison. Gédéon eut 70 fils issus de lui, car il eut plusieurs femmes. Sa concubine, qui était à Sichem, lui enfanta aussi un fils, à qui on donna le don d'Abimélec. Gédéon, fils de Joas, mourut après une heureuse vieillesse, et il fut enterré dans le sépulcre de Joas, son père, à Ophra, qui appartenait à la famille d'Abiézer. Lorsque Gédéon fut mort, les enfants d'Israël recommencèrent à se prostituer au Baal et ils prirent Baal Bérit pour leur Dieu. Les enfants d'Israël ne se souvinrent point de l'Éternel, leur Dieu qui les avait délivrés de la main de tous les ennemis qui les entouraient. Et ils n'eurent point d'attachement pour la maison de Jérubbaal, de Gédéon, après tout le bien qu'ils avaient fait à Israël.
On va se retrouver ensemble dans une prière brièvement. Seigneur notre Dieu, nous voulons te demander de venir parler à nos cœurs. C'est ta parole, Seigneur. Tu es le même Dieu qui ne change pas. Et Seigneur, à travers ces cycles dans la vie d'Israël, dans la vie de Gédéon lui-même, viens nous interpeller ce matin. Viens, Seigneur, nous parler. Je te prie de me remplir de ton Esprit Saint, afin que tout ce que j'apporte, Seigneur, soit selon tes saintes Écritures et par la puissance de ton Esprit Saint. C'est en Jésus-Christ qu'on te prie. Amen. Alors, pour résumer un peu, parce que c'est quand même tout un parcours, n'est-ce pas? Israël pêche encore une fois, se détourne de l'Éternel, va vers d'autres dieux, vers des idoles païennes autour, avec tout ce que ça implique comme alliance qu'ils vont traiter avec ces peuples-là autour. Et Dieu les livre à lui-même. C'est tout ce que Dieu fait, dans le fond. Il les livre à lui-même, il cesse de les protéger, de les accompagner. Et en faisant cela, il est en train de les livrer aux nations ennemies qui les entourent. C'est ce qu'il avait dit qu'il ferait, c'est ce qu'il fait à ce moment-là. Et donc, Israël est vraiment oppressé par les nations environnantes. Israël n'était pas un peuple puissant de par lui-même, c'était pas un peuple de conquérants, d'accord? Et lorsque Dieu retire sa main, très rapidement, ils sont oppressés. Et puis, il se passe ce qui doit se passer. Ils commencent à crier à Dieu. Ils crient à l'Éternel dans leur malheur. Et Dieu, qui est bon, qui est gracieux, envoie vers eux un prophète parce que Dieu veut parler à leur cœur premièrement. Ce que Dieu veut, c'est cette relation avec nous. C'est ce qu'il veut avec Israël. Il envoie donc son prophète avant d'envoyer un libérateur. Le prophète vient pour leur rappeler l'engagement qu'ils avaient avec l'Éternel. Ensuite de ça, Dieu va approcher Gédéon, qui ne se voyait pas comme un vaillant héros, qui, comme le reste d'Israël, a peur, se cache pour même traiter son froment, tout ça. Il est caché pour faire ça. Et donc, Dieu va l'approcher, il va dire, c'est toi que j'ai choisi. Et Dieu va se servir de Gédéon à ce moment-là pour l'envoyer contre les Madianites. Je saute des détails, d'accord, juste pour donner le gros de l'histoire, mais Dieu veut démontrer que la force de Gédéon ne se trouve pas en lui-même, la force d'Israël ne se trouve pas en lui-même, et donc il va demander à Gédéon, il va exiger de lui qu'il passe de 32 000 hommes à 300 hommes pour aller au front, et il va lui donner une stratégie assez étrange sur le front, et finalement, sous la direction de Gédéon, effectivement, les Madianites vont être défaits, ils vont être poursuivis par le peuple d'Israël après ça, alors qu'ils sont en fuite, et là, il y a quelque chose qui commence à se passer dans le cœur de Gédéon. Gédéon commence à se prendre au sérieux dans tout ça, et donc il va y avoir un élément de vengeance même qui va s'installer dans son cœur. C'est une portion qu'on a sautée là ce matin dans la lecture. Si vous voulez prendre le temps d'aller le relire, vous verrez cela. Mais Gédéon va commencer à se prendre au sérieux à travers le processus, et bien que Dieu s'est servi de lui, lui a fait grâce, Gédéon va s'enorgueillir de ça. À la fin de la bataille, il va dire « Voici, je ne régnerai pas sur vous ». Mais il commence à se comporter en roi. Il demande qu'on lui apporte de l'or. Avec l'or, il va couler un éphod, qui était un vêtement que le souverain sacrificateur portait lors du service. Et il en fait donc un objet d'adoration qu'il met dans sa propre ville afin de pouvoir être là et pouvoir attirer l'attention sur sa ville. Donc, il ne dominera pas, mais il commence à se comporter comme un roi où l'adoration vient dans sa ville. Et il va prendre de nombreuses femmes. Ce que éventuellement les rois vont faire. Il commence à se comporter vraiment comme un seigneur. Et donc, on a ce cycle-là qui se produit avec Gédéon. Et on va voir des leçons. Ce matin, on va aller voir rapidement 8 leçons qu'on peut tirer du ministère et de la vie de Gédéon et qui s'appliquent à nos vies, à nous. Mais avant d'aller regarder à Gédéon, j'ai une question pour vous. Et là, j'ai besoin que vous fassiez aller vos méninges un petit peu puis que vous réfléchissiez sérieusement. Pour vous-même, quelles sont vos plus grandes forces? Réfléchissez à ça un instant. C'est quoi vos plus grandes forces? Pas de fausse humilité ici, là, vous en avez tous. C'est quoi vos plus grandes forces que les gens vous disent? C'est bon, vous en avez identifié? Dans tous les domaines, là, je ne parle pas juste de spiritualité, là, je parle de n'importe quoi. Ça peut être votre physique qui est votre avantage, ça peut être votre intelligence, votre douceur, vous êtes brillant dans tel ou tel domaine, vous avez développé de l'expérience. C'est votre expérience, votre plus grande force, c'est quoi? Je ne sais pas. Maintenant, gardez ça à l'esprit. Et il est très, très, très probable que ces éléments-là soient vos plus grands pièges. Parce qu'il est très probable que ces forces-là vous conduisent régulièrement à vouloir faire les choses par vous-même, à vous appuyer sur vos propres forces. Et vous êtes probablement capable d'identifier des situations où effectivement, vous appuyant sur vos forces, vous avez cherché à faire les choses sans Dieu, indépendamment de Dieu. Et si vous réfléchissez à vos plus grandes faiblesses maintenant, c'est quoi vos plus grandes faiblesses? C'est possiblement vos plus grands atouts. Parce que chaque fois que vous êtes confronté à vos faiblesses, vous avez l'opportunité, souvent nos cœurs se tournent vers Dieu pour s'appuyer sur lui. C'est pas comme ça qu'on nous apprend à réfléchir dans le monde en général, hein? Mais c'est comme ça qu'on doit apprendre à réfléchir avec Dieu. C'est comme ça qu'on doit réfléchir avec Dieu. Voyez-vous, dans nos cœurs, on désire tellement être indépendant. Nous aspirons à être indépendants, complètement indépendants. Et chaque fois qu'on en a l'opportunité, même comme chrétien, chaque fois qu'on en a l'opportunité, on veut tasser Dieu du centre de la caméra de notre vie. On veut reprendre le premier plan. D'où notre image avec le selfie, qui est toutes ces scènes où les gens s'amusent à se prendre en photo. Puis tu vois bien que les personnes qui sont avec eux, dans le fond, c'est des figurants. Je veux dire, tu pourras avoir le président, le premier ministre du Canada, le président des États-Unis, la plus grande vedette sportive que tu connais. Dans le fond, ce que tu veux, c'est pas qu'on le voit lui. C'est que tu es avec lui. C'est un figurant qui est là pour te mettre en valeur. Parce que toi, tu es avec lui. Et c'est là dans notre cœur, ce désir-là de se comporter de cette même manière-là avec Dieu. De traiter Dieu comme un figurant dans notre vie. Est-ce que Dieu fait de la figuration dans ta vie? Il est avec toi sur les pauses de ta vie, mais il est là comme un faire-valoir. Et lorsque tu es confronté avec tes faiblesses, tu redonnes un petit peu le centre, tu dis « Regarde, je te suis, OK? Vas-y. » Puis lorsque tu prends confiance en toi, puis tu peux te servir de tes forces, mais là tu dis « Regarde, c'est beau, je t'appelle, OK? Tasse-toi, la caméra revient sur moi. » Est-ce que Dieu est un figurant dans votre vie en général? Parce que nous sommes profondément indépendants. Nous désirons conserver, reconquérir, regagner constamment cette indépendance. Et malheureusement, c'est souvent lorsqu'on est confronté à nos faiblesses, à nos échecs, que nous nous tournons vers Dieu. La semaine dernière, vous avez regardé un petit peu plus en détail le cycle qu'on trouve dans le livre des juges. Et on peut afficher le cycle ici en avant. C'est important parce que ce cycle-là n'est pas vrai juste pour les juges, il est vrai pour chacun d'entre nous. D'accord? Et c'est ça que je vais essayer de vous démontrer ce matin rapidement. Donc, ce cycle-là, voici comment on le résume. Lorsque Dieu conduit Israël en terre promise, ils arrivent dans une terre de liberté. Ce que Dieu leur offre et ce qu'il nous offre, c'est la liberté. Marcher avec Dieu, marcher dans les voies de Dieu n'est pas un esclavage. C'est la liberté de devenir tout ce que je suis appelé à être et à devenir, c'est-à-dire à l'image de Dieu. D'accord? Et donc, ils sont conduits dans cette liberté-là. Mais notre nature, c'est quoi? Le péché d'Adam, le péché d'Ève, c'est quoi? On cherche cette indépendance envers Dieu et donc Israël se tourne vers d'autres dieux, d'autres idoles, sachant pertinemment qu'ils sont en train d'offenser Dieu. Ils prennent des petites statues comme on a ici en avant pour dire « Voici, ça c'est celui qui va m'aider à avoir des bonnes récoltes cette année. » Non, c'est un morceau de roche que tu as pris dans un champ. Et donc, ils se détournent du Créateur. Ensuite de ça, qu'est-ce qui se passe? Dieu les livre à eux-mêmes. Dieu les laisse aller. C'est beau, c'est ça que tu veux, c'est correct. Je me retire. Vas-y, cours. Je suis sorti du centre de la caméra de ta vie. Et inévitablement, qu'est-ce que ça nous conduit? Qu'est-ce que ça conduit Israël? Ça les conduit dans la servitude. Ils deviennent esclaves de leurs idoles, de leurs vices, de leurs penchants, parce que ça les amène à traiter des alliances avec les peuples environnants, se retrouvent eux-mêmes en servitude. Qu'est-ce qui se passe après? Aïe, aïe, bobo! Ils se mettent à crier et à broyer. Ils se mettent à crier à Dieu. Et Dieu, dans sa grâce, qu'est-ce qu'il fait? Il intervient, il les délivre. Et il les reconduit dans la liberté. Ça, c'est le cycle qu'on voit dans les juges se répéter constamment. Et ce matin, moi, je vous propose que c'est le cycle qu'on voit se répéter dans nos vies constamment, chrétien ou non, chrétien ou non. Et c'est ce cycle-là que Jésus-Christ veut briser par la plénitude de son esprit. Alors, on va aller tirer quelques leçons de la vie de Gédéon, qui est un héros, mais on dirait un héros qui nous ressemble peut-être un petit peu trop, d'accord? Première leçon, c'est cette notion-là d'indépendance. Israël, au tout début du récit, lorsqu'on est dans Juges 6, vous pouvez retourner avec moi dans Juges 6, on les trouve et leur geste qui va se répéter à d'innombrables reprises, c'est ce désir-là d'indépendance. Nous cherchons à tasser Dieu du cadre de l'écran, du centre de notre vie. Et c'est exactement ce qu'Israël fait ici. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel et l'Éternel les livra dans les mains de Madian pendant 7 ans. Première leçon, c'est ce désir constant dans nos vies de poursuivre cette indépendance et de placer Dieu dans un rôle de figuration. Est-ce que Dieu est figurant dans ta vie actuellement ou est-ce qu'il est au centre de l'écran? Puis c'est toi qui es là pour dire, hey, regardez, je suis avec lui. Première leçon à tirer de Gédéon. Deuxième leçon ensemble. Dieu ne te forcera jamais la main. Et ça revient constamment à travers le livre des juges. Vous l'avez expérimenté dans votre propre vie. Dieu ne va pas te forcer la main. Ce que Dieu fait, verset 1, les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu dit, c'est correct, tu veux marcher par toi-même. Vas-y, mon homme. Je me retire, je te laisse aller. Tu veux ton autonomie, tu veux ton indépendance. Vas-y, prends-la. Fais ce que tu veux de ta vie. Et voyez-vous, ce désir-là d'indépendance, d'autonomie qu'on a, nous prive de commencer chaque matin. Je l'ai dit souvent dans l'Église avec l'Évangile. Je commence le matin en me réveillant. C'est ce que j'ai fait ce matin. Je commence le matin en me réveillant puis je dis, Seigneur, aujourd'hui, je ne veux pas vivre une journée sans toi. Et à cause de ce que Jésus-Christ a fait sur la croix pour moi, je sais que tu es dans mon camp, que je suis dans ton camp. J'ai trouvé grâce à tes yeux à cause de l'amour de Jésus-Christ. Et bien que je sois pécheur, malgré toutes mes fautes d'hier, malgré les fautes que je ferai encore aujourd'hui, je m'appuie sur ta grâce, Seigneur Jésus. Et à cause du sacrifice de Jésus-Christ, je sais que tu m'es favorable aujourd'hui. Je vais pas m'appuyer sur mes forces, je vais m'appuyer sur ta grâce. Mais bien souvent, on fait pas ça. Une journée passe, deux journées passent, une semaine passe, deux semaines passent, trois semaines passent. Pas de prière, pas de consultation de Dieu. On ne cherche pas à marcher dans une dépendance de Dieu. On n'est pas attentif dans notre cœur pour dire, est-ce qu'il y a des idoles qui sont en train de reprendre la place dans mon cœur? On n'est pas là pour les chasser. Il y a un confort dans ça. Puis en fin de compte, je me sens plus libre. Je me sens plus libre dans la servitude sous mes idoles qu'en train de servir Dieu. J'ai l'impression de faire plus ce que je veux. C'est exactement ça que Dieu dit. C'est bon, fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux. Et donc, Dieu ne nous forcera jamais la main. Mais ce qui est important de saisir, c'est que Dieu est la vie. E-S-T, Dieu est la vie. C'est Dieu qui est le créateur, c'est lui le concepteur. Regardez ce qu'il dit à Israël, un tout petit peu plus loin, lorsqu'il envoie son prophète vers eux au verset 9. « Je vous ai délivré de la main des Égyptiens. » Israël n'était pas un peuple. Israël n'était pas un peuple, c'est Dieu qui l'a constitué comme tel. Mais c'est vrai pour tous les êtres humains. L'oxygène que je respire, c'est un don de Dieu, c'est une grâce de Dieu. C'est Dieu qui est la vie. Je me suis levé ce matin parce que Dieu a décidé qu'il m'offrait cette journée. Je respire de l'air emprunté. Je vis des journées par la grâce de Dieu. Et chaque être humain, c'est ça. Dieu est la vie. Inévitablement, ça veut dire que s'éloigner de Dieu, c'est aller vers la mort. C'est ça que ça veut dire. La mort spirituelle, la mort morale, la mort dans mes relations. Et vous le savez, lorsque vous êtes dans ce cycle et que vous vous éloignez de Dieu, vous décidez de déclarer consciemment ou non votre dépendance envers Dieu, vous courez vers la mort. Les relations s'enveniment, je deviens plus centré sur moi-même, égoïste, je réagis mal devant les épreuves, la difficulté à avoir un bon témoignage pour aimer mes ennemis, je suis mes pulsions lorsque j'ai le goût de dépenser, j'achète, let's go, il n'y a pas de mal à se faire un petit peu de bien. Mes idoles reprennent leur place dans mon cœur. Dieu est la vie, c'est lui le concepteur, c'est lui le créateur. Déclarer mon indépendance envers Dieu, c'est courir vers la mort. Et Dieu ne nous forcera jamais la main. Dieu va toujours nous laisser la liberté de choisir. Troisième leçon. Bien souvent, on crie « aïe aïe, bobo » à Dieu sans véritablement vivre de repentance. Bien souvent, on crie à Dieu parce qu'on s'est mis dans le pétrin. Ça va mal avec mon épouse, c'est toujours tendu, j'ai essayé n'importe quoi, j'ai essayé de qu'elle ne comprenne rien puis que j'avais raison. Ça fait 2 mois que ça dure, la relation est difficile. À un moment donné, je me dis, regarde, je pense qu'il va falloir que je demande à Dieu de venir nous donner un coup de pouce là-dedans. Ouch, ça fait mal! Il n'y a pas de repentance. Et dans le cas d'Israël, il n'y avait pas de repentance. Si vous êtes attentif à ce qui se passe dans le passage, ils sont sous la servitude, sous Madian, ils sont en train de souffrir et ils crient à l'Éternel. On pourrait dire, ah, il y a de la repentance. La repentance, c'est quoi lorsque tu t'es éloigné de Dieu, tu as commencé à adorer des idoles, à traiter des alliances avec les peuples environnants? Il y a des idoles dans ton cœur. C'est quoi la repentance? C'est renverser les idoles. C'est détruire les idoles. C'est chasser les idoles. Israël ne va pas faire ça. Israël crie à Dieu. Dieu, dans sa grâce, envoie son messager. Son messager leur dit, regardez, votre problème, c'est un problème de cœur. Votre problème, ce n'est pas les Madianites. Non, ça, c'est les conséquences qui découlent. C'est d'autres problèmes qui découlent d'un véritable problème qui est le problème de cœur. Et Dieu va vers Gédéon. Et qu'est-ce que Gédéon, c'est quoi sa première mission? C'est renverser les idoles. Donc, ça veut dire que les idoles n'avaient pas été renversées. Si Israël s'était repenti, qu'est-ce qu'ils auraient fait au départ? Première chose à faire, quand tu décides de revenir à l'Éternel, tu regardes dans ta vie tes péchés, tu dis, Seigneur, j'ai péché contre toi. Il y a des choses qui ont pris ta place dans ma vie, dans mon cœur, et je vais les chasser, je vais renverser ces choses-là. Je vais les chasser de ma vie. Mais bien souvent, nous sommes comme Israël dans ce passage ici. On crie à Dieu parce que ça fait mal. Aïe, aïe, j'ai mal, enlève mon écharpe. Merci Seigneur, on se reparlera quand j'aurai mal. Bien souvent, on crie à l'Éternel sans véritable repentance. Sans véritable repentance. Et Dieu est tellement bon que bien souvent, il nous délivre de toutes sortes de situations. Mais si vous êtes attentif au cycle qui se produit dans le livre des juges, il n'y a pas de repentance profonde dans la majorité des cycles, il n'y en a pas. C'est ce qui fait que ça recommence tout de suite après. Tout de suite après. Les domaines dans vos vies où Dieu vous a donné des victoires profondes, où vous sentez qu'il y a une croissance dans votre maturité véritable, soyez attentifs, essayez de les regarder. Vous allez voir, il y a eu de véritables repentances dans ces domaines-là. Où vous avez vu vos fautes, vous les avez reconnues, vous avez reconnu quel était le péché dans votre cœur qui avait amené ces conséquences-là dans vos relations. Je suis pris avec des dettes, C'est quoi le problème? Le problème, c'est que tu convoites, il y a un péché qui est derrière ça. La majorité du temps, on s'entend? La majorité du temps, c'est ça qui se passe. Alors bien souvent, on crie à Dieu, on appelle à l'aide, tout ce qu'on veut, c'est que Dieu enlève la douleur. Il n'y a pas de profonde repentance qui est présente ici. Puis Dieu est gracieux, Dieu est patient, puis il vient et nous délivre bien souvent quand même de plusieurs de nos problèmes. Regardez avec moi le verset 13. C'est quelque chose qui est important juste dans notre sanctification, dans notre cheminement, dans notre croissance spirituelle. Souvent, lorsque Dieu nous livre à nous-mêmes, on a le sentiment que Dieu nous a abandonnés. Regardez le verset 13, ce que Gédéon dit à Dieu. Gédéon s'adresse à l'Éternel et il dit, « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, « L'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. » Dieu les a livrés entre les mains de Madian, mais Dieu n'a pas abandonné Israël. Ça, c'est pas vrai. Dieu abandonne jamais ses enfants. Et lorsque Dieu nous livre aux conséquences de nos choix, lorsque Dieu nous livre à nous-mêmes, c'est encore un acte de bonté de Dieu, à travers lequel il est en train de nous châtier pour nous ramener à lui, il est en train de nous corriger, il est en train de nous confronter à nous-mêmes. Mais Dieu n'abandonne pas ses enfants. Et dans ce discours-là de Gédéon, il y a un certain reproche qui est adressé à Dieu. Tu dis que tu es avec nous, mais c'est évident que tu ne l'es pas, tu nous as abandonnés. S'il y avait eu repentance profonde, le discours serait très différent. Très différent. Le discours, ce serait... « Éternel, fais-moi grâce parce que je t'ai abandonné. Je t'ai abandonné, Seigneur. Je t'ai tassé du centre de l'écran. J'ai décidé que c'était moi la vedette. Puis toi, tu prends le bord, puis je vais diriger ma vie. Et je veux revenir à la maison. Est-ce que tu veux m'accueillir, Seigneur? J'ai besoin de ta grâce. J'ai besoin de ta grâce. » Alors, je ne sais pas où est-ce que vous êtes dans ce cycle-là actuellement dans votre vie, mais c'est possible que votre sentiment profond, c'est que Dieu ne vous est pas favorable. Et c'est possible, en effet, que Dieu soit en train de vous corriger. C'est très possible. C'est une faveur, c'est une grâce de la part de Dieu lorsque Dieu nous corrige, parce que Dieu châtie ses enfants parce qu'il les aime. Il les corrige parce qu'il les aime. Dieu n'abandonne pas ses enfants. Ce n'est pas vrai. Et ce sentiment-là, c'est encore une tentative de notre part de dire à Dieu, « C'est pas vraiment moi le problème, c'est toi le problème. » C'est pas vraiment de ma faute si je me retrouve là, c'est toi le problème. Et dans ce discours-là de Gédéon, pour moi, ça illustre clairement un manque d'une repentance profonde qui n'est pas assez véritable à cet endroit-là. Un autre élément, une autre leçon, cinquième leçon. Sa grâce précède toujours notre repentance. Je ne m'étirerai pas là-dessus, mais voyez-vous, il n'y avait pas eu de repentance véritable, il y a juste eu un cri à Dieu. Et Dieu est déjà en train d'intervenir. Dans les Écritures, dans Romains, on lit « Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Lorsque je me repens, c'est que Dieu a déjà commencé à bouger à mon égard. Il a déjà commencé à venir vers moi. Dieu nous précède toujours dans notre repentance. Sa grâce et sa faveur est toujours là. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a quelques semaines, je vous ai donné 3 requêtes de prière pour demander à Dieu de nous aider à grandir comme Église dans les 2, 3, 4 prochaines années. Et une de ces requêtes-là, c'est demander à Dieu la grâce de la repentance. Lorsque dans mon cœur vient la repentance, c'est que l'Esprit de Dieu est déjà en train de faire une œuvre dans mon cœur. Par moi-même, je n'y arriverai pas. Et donc, s'il y a des domaines dans ta vie où actuellement tu dis, je suis là, Yannick, je suis dans cette servitude, il y a ce péché, cette idole-là du cœur qui est revenu prendre le contrôle de ma vie, mais c'est comme, je la vis pas vraiment la repentance. Cette semaine, je vivais un combat, puis je disais, Seigneur, je vis, c'est juste comme aïe aïe bobo. Il y a pas de repentance, Seigneur. Puis je dis au Seigneur, j'ai trop d'expérience, je sais c'est quoi cette game-là qui est en train de se jouer. J'ai besoin que par ton esprit, tu viennes produire en moi une profonde repentance. Et dans sa grâce, il répond toujours à cette prière-là. Des fois, ça prend une journée, des fois, ça prend 2 jours, des fois, ça prend une semaine. Ça m'a déjà pris 2, 3 ans. Je ne sentais pas une profonde repentance, un brisement venir. Où je dis, Seigneur, c'est contre toi seul que j'ai péché. C'est pas juste parce que ça me fait mal. C'est parce que je veux que tu sois au centre de ma vie, Seigneur. Et lorsqu'il le fait, c'est toujours qu'il est en train de vous précéder. Et c'est ce qu'il fait ici avec Israël. Il les précède. Ils sont en train de crier parce qu'ils ont mal. Il envoie son messager. Il envoie son libérateur, Gédéon, pour les délivrer. Et puis, il les conduit lui-même à cet endroit où ils vont renverser les idoles qu'il y a dans le pays, qu'il y a à cet endroit-là, à ce moment-là. 6e leçon, avant la victoire sur les problèmes extérieurs, il faut renverser les idoles du cœur. Il faut renverser les idoles dans nos vies. Quand on regarde la séquence de ce qui est en train de se passer ici, on lit au verset 25-26. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père. Gédéon est choisi pour aller délivrer Israël des Madianites. Et Dieu lui dit, OK, on va commencer par faire le ménage dans ta maison. Tu vas aller renverser l'autel de ton père. Avant la victoire sur les Madianites, tu vas aller renverser l'idole de ton père. Et abat le pieu sacré qui sert aussi au culte, qui est déçu. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel à l'Éternel ton Dieu. Tu prendras le second taureau et tu offriras un holocauste avec le bois de l'idole que tu auras abattu. Avant d'être libéré, des problèmes extérieurs qui sont causés par les idoles dans nos vies, dans nos cœurs, il faut chercher à renverser les idoles qu'il y a dans notre cœur. Autrement, on travaille juste sur le symptôme. On ne travaille jamais sur le problème. Tu as des problèmes dans ton couple, tu as des problèmes dans tes relations, tu as des problèmes avec tes finances, tu as des problèmes dans plein de domaines. Des fois, c'est circonstanciel. Des fois, ça ne dépend pas de nous. Souvent, c'est lié à des péchés qui sont là derrière aussi. Bien souvent. Et nous, ce qu'on veut, c'est régler le problème extérieur. Dieu dit, oui, mais il faut aller à la source. C'est quoi l'idole qu'il y a dans ton cœur? Dans le Nouveau Testament, on apprend que les idoles ne sont pas seulement des statues de pierre ou faites de bois. Ce sont toutes ces convoitises, cet orgueil, cette débauche, ce mensonge, cette indépendance envers Dieu qu'il y a dans nos cœurs. Et donc, si dans un domaine dans ta vie, tu es en train de dire, Seigneur, sors-moi du pétrin. Dieu est en train de te dire, allons à la racine. Allons identifier là où t'as déclaré ton indépendance envers moi. Là où t'as laissé une idole se construire, s'installer dans ton cœur. Ensuite, on va traiter le problème extérieur. Mais allons à la racine ensemble. Il y a des domaines dans vos vies, possiblement maintenant. Des domaines dans vos vies où vous dites, Seigneur, n'importe quand, viens me libérer du problème. J'ai un collègue de travail, c'est une peste. Bon, peut-être vous ne faites pas des imprécations comme je fais des fois. Frappe-le, Seigneur! Mais vous priez pour qu'il change de job. Puis Dieu dit, oui, mais aime tes ennemis. Ton épouse, change-la, Seigneur. Bon, pas change de femme, là, on s'entend. Transforme-la. Avant de régler les problèmes extérieurs, il faut adresser le problème des idoles du cœur. Et c'est ce que Dieu fait ici avec Gédéon. Il dit, c'est bon, vous voulez avoir la victoire, vous voulez être délivré, on va aller adresser les problèmes de cœur dans votre vie. On va se tourner vers les idoles qu'il y a dans votre vie, dans votre cœur. 7e leçon. Dieu seul est notre véritable force. Et chaque jour m'en rappeler, c'est mon meilleur atout dans la vie. C'est Dieu qui est ma force. Et là, on arrive vraiment, soyez attentifs à ce qui va se passer ici avec Gédéon, d'accord? Soyez attentifs à ce qui va se passer avec Gédéon dans le récit. On va le survoler très rapidement. Quand Dieu approche Gédéon, qu'est-ce que Gédéon dit? Je suis au chapitre 7, versets 15 et 16. Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici, ma famille est la plus pauvre en Manassé et je suis le plus petit dans la maison de mon père. » Moi, je soupçonne qu'il ne croyait pas vraiment ça, là. Mais quand même, c'est ça qu'il dit à ce moment-là. Et l'Éternel lui dit, « Mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. » Quels que soient vos dons, quels que soient vos talents, quelles que soient vos forces, quels que soient les courants dans la société qui disent « Faut que tu arrives à exploiter ton plein potentiel. » Moi, mon potentiel, c'est Dieu. Fait que j'ai même pas l'ambition de l'exploiter au complet. Pas l'intention même de l'exploiter, là. Quelles que soient tes forces, quels que soient tes dons, ton meilleur atout, c'est d'avoir Dieu avec toi. Ton plus grand piège, c'est de croire que tu n'as pas besoin de lui. Et une grâce de Dieu, c'est de pouvoir te rappeler chaque jour que tu es petit devant l'Éternel, que tu es peut-être le plus petit de tous les hommes. L'apôtre Paul voulait être libéré d'une faiblesse. Trois fois, il a demandé à Dieu, « Libère-moi de cette faiblesse. » Dieu lui a dit, « Non, ma grâce te suffit. » Non seulement ça, mais il a dit, « C'est dans ta faiblesse que je me glorifie. » Il n'a pas dit, « C'est malgré ta faiblesse que je me glorifie. » Il a dit, « C'est dans ta faiblesse que je me glorifie. » Pas malgré ta faiblesse. Et j'apprends tranquillement avec les années, parce que j'ai des faiblesses. J'ai des faiblesses dans mes compétences. J'ai des faiblesses dans mon caractère. Des faiblesses qui m'amènent souvent à chuter et à pécher. J'apprends à être attentif à Dieu, puis dire, « Seigneur, je ne suis pas aussi extraordinaire que je voudrais. Dans tel domaine, j'aimerais tellement être meilleur, Seigneur, être plus brillant, Seigneur. » Et j'apprends ces années-ci, depuis 2-3 ans, à dire, « Mais ça, c'est ma plus grande force. » Parce que ça me ramène constamment à Dieu. Et la dernière leçon à retenir ce matin avec Gédéon, la 8e, c'est que tes succès menacent toujours d'être tes plus grands pierres. Tes succès menacent toujours d'être tes plus grands pièges. Voyez-vous, lorsque l'Éternel a approché Gédéon a dit, « Ouais, mais comment est-ce que je pourrais délivrer Israël? Je suis tellement petit, je fais partie de la plus petite des familles, le plus petit dans ma famille. » Pourtant, Dieu l'avait salué en disant, « Salut à toi, vaillant héros. » Il dit, « Mais non, je ne suis pas un héros, je suis tout petit. » Puis Dieu lui dit, « Ouais, mais je vais être avec toi. » Voilà, tu es devenu un héros tout d'un coup. Tu es vaillant, tu es fort, tu es puissant. Ta puissance est en l'Éternel. Puis Gédéon est parti à la guerre, tremblant. Il a fallu que Dieu le rassure, qu'il puisse aller écouter le songe de quelqu'un dans le camp ennemi pour être rassuré dans son attaque, puis tout ça. Mais progressivement, Gédéon a commencé à se prendre au sérieux. Alors voyez-vous, quand Dieu a approché Gédéon, voici comment Gédéon parlait. Gédéon disait, « Je ne suis rien, je suis petit. » Puis Dieu lui a dit, « Non, avec moi tu es grand, tu es un vaillant héros. » Avec moi. Et tranquillement, Gédéon a changé d'avis. Et il a dit, « Ouais, t'as raison, en fin de compte. Je suis pas mal bon. Avec ou sans toi. » Et progressivement, on voit Gédéon dans ses conquêtes, laisser place à de la vengeance, le conduire. Ensuite de ça, demander tout l'or. Il est devenu extrêmement riche à ce moment-là. Couler ça pour en faire un éphod qui devenait un objet de culte, l'a placé dans sa ville, a pris de nombreuses femmes et a voulu se comporter comme un roi qui est là pour régner. À un point tel où il a amené le peuple d'Israël à se prostituer et revenir de son vivant à adorer d'autres dieux. Tes plus grands succès sont potentiellement tes plus grandes faiblesses, tes plus grandes menaces. J'aimerais inviter les musiciens à venir me rejoindre à l'avant, s'il vous plaît. Moi, je crois que ce cycle-là, on se promène à travers ce cycle-là régulièrement. Chacun d'entre nous. Je ne crois pas que c'était vrai juste pour les juges. Je ne crois pas que ce n'est plus vrai pour les chrétiens. Je crois que c'est un pattern très naturel dans le cœur humain. Et donc, ma question pour pour toi ce matin, pour chacun d'entre vous, c'est actuellement, aujourd'hui, c'est cette semaine-là. Où est-ce que tu es dans le cycle? Où es-tu actuellement? Est-ce que tu es en train d'avancer par tes propres forces? Est-ce que tu as déclaré dans ton cœur ton indépendance envers Dieu? Dieu qui est témoin, qu'est-ce qu'il voit? Est-ce qu'il voit quelqu'un qui cherche à trouver sa force en Dieu constamment? Où est-ce que tu es actuellement? Où est-ce que tu es à cet endroit où tu t'es tourné vers d'autres idoles et il y a des choses dans ton cœur, des péchés, des domaines qui sont plus satisfaisants que trouver ta joie en Dieu? Esprit te parle, mais tu dis, « Oui, mais je veux me garder ces petites portes-là, Seigneur. C'est mes endroits de repos, c'est mes endroits où je suis moi-même, où je suis libre de toi, je suis libre d'être ce que je veux être sans marcher dans tes voies. » Mais peut-être que tu es rendu plus loin dans le cycle, puis certaines de ces idoles-là produisent beaucoup de douleur dans ta vie. Puis tu as commencé à crier à Dieu. Tu cries à Dieu en disant, « Ça fait mal, Seigneur! Sors-moi de là! » Est-ce qu'il y a de la repentance dans ton cœur actuellement? Ou est-ce que tu es juste en train de dire, aïe aïe, bobo, je ne veux plus avoir mal, mais il n'y a pas de repentance profonde? Ou est-ce que Dieu, dans sa grâce, est en train d'opérer cette délivrance dans ta vie? Ou de plus en plus, jour après jour, la voix de l'Esprit de Dieu se fait entendre à ton cœur, puis ça résonne bien. Tu vois tes péchés, tu les confesses, tu t'en repens, tu te rapproches de Dieu, tu dis, Seigneur, je veux marcher dans tes voies, je veux marcher avec toi, Seigneur. Ou mieux encore, quotidiennement, tu marches dans la plénitude de l'Esprit de Dieu et tu vis cette liberté à laquelle on est appelé. Voyez-vous, ce livre des juges nous est donné pour nous montrer le cœur de l'être humain qui cherche à être indépendant envers Dieu. Chacun d'entre nous, qui que nous soyons, nous sommes tentés de déclarer constamment cette indépendance envers Dieu, de reprendre le centre de l'écran et de dire, reprends ton rôle de figurant, je t'appellerai quand j'aurai besoin. L'être humain n'a pas été conçu pour ça. L'être humain a été conçu pour marcher dans les voies de Dieu, ressembler à Dieu, être bon, saint, juste, droit, comme Dieu, pour lui ressembler constamment. Et Jésus-Christ est venu pour briser ce cycle-là dans nos vies. Jésus-Christ est venu pour briser ce cycle qui n'a pas besoin de se répéter constamment. Il est mort sur cette croix pour nos péchés afin que nous soyons pardonnés. Il est ressuscité d'entre les morts afin que nous soyons pardonnés et que nous puissions recevoir l'Esprit de Dieu en nous-mêmes. Et son Esprit habite chacun d'entre nous. Si vous avez placé votre foi en Jésus-Christ, son Esprit habite en vous. L'Esprit est là et il veut vous conduire à l'extérieur de ces cycles-là. C'est ça la maturité en Jésus-Christ. C'est apprendre à vivre et marcher jour après jour dans cette dépendance envers Dieu. Où je retourne au moment de ma conversion, je me lève le matin dans la prière, je dis, Seigneur, je me souviens de ce jour où tu es entré dans ma vie, tu m'as conduit dans cette terre promise, j'ai maintenant ton esprit qui habite en moi. Et chaque jour, je veux marcher dans une dépendance envers toi. Je ne veux plus être indépendant envers toi, Seigneur. Je ne veux plus retourner vers ces idoles, je ne veux plus retourner vers ces péchés. Mais je veux marcher dans la plénitude de ton esprit. Et plus nous grandissons en maturité dans notre vie chrétienne, plus ces cycles-là deviennent courts. Moins ces cycles-là se répètent. Je ne pense pas qu'on va en être entièrement libéré dans cette vie. Paul disait, j'ai pas encore atteint le but, j'ai pas encore saisi le prix, mais je cours pour saisir Christ. Parce que c'est lui qui, par son Esprit Saint, nous fait sortir de ces cycles. On va prier ensemble. Éternel, notre Dieu, tu es bon. Tu es infiniment bon. Tu es pour nous, Seigneur, un secours, un rocher, un refuge. Tu es un asile où on trouve, Seigneur, la paix, un oasis de repos. Mais tu sais, Seigneur, tu vois combien nous sommes tellement souvent bêtes. Et plutôt que de trouver toute notre joie, tout notre plaisir à marcher avec toi dans tes voies, remplis de ton esprit, si souvent, Seigneur, si souvent, nous déclarons notre indépendance envers toi. Nous tassons, Seigneur, nous te tassons du centre de nos vies pour retourner vers ces ces idoles anciennes, Seigneur, où nous trouvions de petits plaisirs loin de toi. J'aimerais te prier, Père, pour chacun d'entre nous ce matin. Toi, tu connais nos cœurs, tu connais nos vies. Nous sommes, Seigneur, à nu devant toi. Et tu sais, pour chacune des personnes dans cette salle ce matin, là où nous sommes dans ce cycle, Seigneur. Et ta grâce est merveilleuse, Seigneur. Parce que nous sommes ici pour entendre l'Évangile. Nous sommes ici pour célébrer ton nom. Nous sommes ici pour dire combien tu es bon et gracieux, combien tu l'as été envers Israël et combien tu l'es envers nous. Alors viens, Seigneur, et renouvelle cette grâce par l'œuvre de ton Esprit Saint dans nos cœurs. Ce matin, Seigneur, donne-nous une profonde repentance de nos idoles, Seigneur, afin que nous crions à toi avec un cœur sincère, ô Dieu. Reconnaissant nos péchés, nous détournant de ces idoles, que tu es notre plus grand bien, Seigneur. Tu es notre force. C'est en Jésus-Christ qu'on te prie. Amen.